plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma, aujourd'hui K comme Kanji, Darius Kanji, avec Darius Kanji lui-même, Jordan Minzer et Entebin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Quel point commun entre David Fincher et Michael Haneke, Woody Allen et Wong Kar-wai, Bernardo Bertolucci et Bong Joon-ho, Jean-Pierre Jeunet et James Gray ou encore Sidney Pollack et Philippe Pareno. Quel point commun, un grand artiste de la lumière et sans doute avant tout de l'ombre. La pluie de Seven et le soleil de Baiser volé, c'est lui. L'or et le vert de la cité des enfants perdus et la jungle mélancolique de Lost City of Z, c'est lui aussi. Les images numériques de L'amour de Michael Haneke, Palme d'or en 2012, comme du Okja de Bong Joon-ho, qui en aurait bien mérité une de Palme d'or, c'est encore lui. Darius Kanji, directeur de la photographie franco-iranien formé aux États-Unis, marque le cinéma d'auteur contemporain des deux côtés de l'Atlantique depuis près de 30 ans qu'on l'a découvert avec le trésor des îles chiennes de F.J. Ossan, ses images en noir et blanc ultra saturées et ses cadrages panoramiques. Et comme on aime beaucoup à plan large parler d'images à la radio, nous vous invitons, après Vilmos Zsigmond et Vittorio Storaro, à une nouvelle rencontre avec un grand sculpteur de visage et d'atmosphère et poète de l'image argentique à l'occasion de la parution d'un livre passionnant et richement illustré, Conversation avec Darius Kanji, mené par le correspondant du Hollywood Reporter à Paris, Jordan Minzer, déjà auteur chez le même éditeur Synecdoque, de très remarquée Conversation avec James Gray. Jordan Minzer est également des nôtres ce samedi, tout comme Entebin, qui en fin d'émission nous parlera d'un film miraculé, La Belle Marinière de Harry Lachman, qui avait marqué en 1932 les débuts de Jean Gabin, un film qu'on croyait perdu depuis près de 80 ans et qui, retrouvé et restauré, sort enfin en DVD. Mais pour l'heure, petit aperçu sonore des images de Darius Kanji.
Quelle est la raison de ce braiement?
Mais mon petit, c'est l'anniversaire d'Irvine.
Pardon?
Nothing, I'm just saying it's...
But tell me about yourself.
What? I don't know, what can I say?
So, have you come to Paris to write? Because, you know, these days, so many Americans feel the need to move here.
Well, what? How do we get down? How do we get down? How am I supposed to know? Do I have to set everything now?
Lieutenant.
Fuck, you wanted to be in command, Richard. I only took command because you lost your nerve, French boy!
We might be a little bit too English for this jungle. Strangers in a strange land.
Long is the way and hard that out of hell leads up to light.
It's from Milton. Paradise Lost.
C'est drôle. Je sais pas si je devrais te le dire, peut-être que ça va te gêner, mais tout à l'heure, quand je suis entrée, je me suis rappelé comment je vous écoutais toujours faire l'amour quand j'étais petite. Pour moi, c'était rassurant. Ça me donnait le sentiment que vous vous aimiez et qu'on resterait toujours ensemble.
Bonjour Darius Kanji.
Bonjour Antoine.
Petite précision de vocabulaire, peut-être de définition pour commencer. Il y a 9 mois, on recevait à plan large Vittorio Storaro, le directeur de la photographie légendaire de Bertolucci et de Coppola, Apocalypse Now, au coup de cœur, c'est lui. Mais alors, j'avais parlé de lui comme directeur de la photographie, ça lui plaisait pas du tout. Lui, il me disait, je ne suis ni un directeur de la photographie, ni un chef opérateur, je suis un cinématographe, ou un cinématographeur, diraient les Américains, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit avec le mouvement. Alors vous, comment est-ce qu'il faut vous décrire? Si je lis bien le livre d'entretien que vous avez fait avec Jordan Minzer, vous êtes un caméraman, un interprète, quel est le mot qui vous convient pour ce métier?
Cinématographe, c'est très bien. Cinématographe ou directeur de la photographie, c'est bien aussi, mais Mais Vittorio me reprend toujours quand on se rencontre. Il me dit « Non, non, tu es cinématographe, tu es un directeur de photo. » Ça m'est égal. Moi, j'aime bien aussi le mot opérateur. J'aime bien caméraman. Parce qu'au début du siècle, on était des caméramans. Billy Bitzer était un caméraman. Et avant même lui, il a fait des caméramans. J'aime beaucoup l'idée d'un homme simplement avec une caméra.
Mais vous, vous la tenez rarement, voire jamais, la caméra. La division du travail dans le monde du cinéma fait qu'il y a quelqu'un qui décide de comment on va placer les éclairages, et puis quelle sensibilité de la pellicule on va utiliser, etc. Et puis, il y a le cadreur.
Non, je tiens la caméra parfois, mais sur les longs métrages, en tout cas récemment, j'ai un cadreur, j'ai quelqu'un qui cadre, comme dans le cinéma plus classique, en fait. Moi, je suis revenu à avoir de temps en temps un cadreur parce que j'aime bien dessiner les cadres, où je dessine les cadres, où les metteurs en scène, où les réalisateurs dessinent les cadres, où on les dessine ensemble. Mais j'aime pas exécuter systématiquement le cadre sur 20, 30, 40 prises. Parfois, je travaille parfois avec des metteurs en scène qui sont très très précis et qui veulent une exécution du cadre sans changer après, une fois qu'on a dessiné et décidé le cadre. Et j'aime pas exécuter le cadre. J'aime bien amener des choses au cadre, des choses en fonction du mouvement et du rythme des acteurs dans la scène. Et donc, j'aime aussi beaucoup superviser, regarder beaucoup au moniteur et regarder les acteurs, regarder le moniteur et voir un petit peu ce qui se passe, tout ce qui se passe devant la caméra et autour du plateau.
Question qui revient beaucoup au fur et à mesure de ce livre et qui revient pour tous les grands directeurs de la photo, cinématographeurs, comme on voudra, c'est la question du style. Question éternelle. Jordan Mincer, vous êtes tombé amoureux du style de Darius Kondji, en tout cas d'une image qu'il avait faite. C'était quand vous avez découvert Seven au cinéma. Donc après, vous êtes allé chercher qui était ce directeur de la photographie et vous êtes allé voir des films sur la bonne foi de son nom. Est-ce qu'on peut malgré tout reconnaître le style de Darius Kondji? Est-ce qu'il y a, si on voit une image de film comme ça hors contexte, on peut dire tiens, c'est peut-être du Darius Kondji?
Je dirais, avant de faire le livre avec Darius, je pensais que oui, on pouvait effectivement trouver un certain style, mais après avoir fait le livre et avoir vu tout son travail, c'est à la fois le long métrage, mais aussi les publicités, les clips, le film d'artiste qu'il avait fait avec Philippe Areno. Après avoir vu tout ça, c'est vrai que je trouve ça plutôt difficile à reconnaître un plan. On peut dire en plan de Darius Kondji, alors qu'il y a certains chefs opérateurs, mais dont Vittorio Storaro, où il y a une certaine patte. On a parlé l'autre jour de la patte de chef opérateur. Et ça, on peut voir, mais vu que j'ai l'impression que Darius s'adapte au réalisateur, au style, si on veut, à la vision du réalisateur, ça change beaucoup. Et dans le livre, justement, on parle de Seven. Et on voit les images de Seven, et juste après, on parle de Beauté volée de Bertolucci. Et quand on juxtapose les deux films, on ne peut pas forcément savoir du tout que c'est le même chef opérateur qui a tourné les deux films.
C'est la pluie d'un côté et le soleil de l'autre, quoi. Mmh. C'est vraiment tout le contraire. Mais c'est là que la définition de votre métier, comme celui d'un interprète, se pose, Darius Kondji. C'est-à-dire que vous avez une partition qui est le rêve d'un cinéaste, et vous la traduisez dans quelque chose. Alors, comment ça se passe? Est-ce que très concrètement, vous pouvez expliquer, je sais que ça doit se passer de manière extrêmement différente à chaque fois, mais comment se passe ce processus de visualisation et de transmission d'une vision, de la vision de l'un à la vision de l'autre?
Mais de la vision d'un metteur en scène à un autre metteur en scène, c'est complètement différent en fait. C'est pour ça que je pense qu'il y a pas vraiment de style. À chaque fois, c'est une histoire différente. On devient possédé par un réalisateur, puis par un autre, et on part dans son train, dans son voyage comme ça.
Ça veut dire quoi, posséder?
Posséder, d'abord, ça part d'un désir, d'une envie de travailler avec un metteur en scène, et puis d'avoir vu certains de ses films, d'avoir aimé certains de ses films, et d'avoir comme ça une envie, un instinct que c'est vraiment important de travailler avec ce réalisateur. Et donc, avec certains réalisateurs plus que d'autres, il y a une sorte de stade que j'appelle un peu comme une possession. Comme on est possédé, comme un film de Jean Rouge, comme Les Maîtres Fous, comme on peut tout d'un coup être possédé par un esprit. Et je sais que ça paraît un peu mystique, mais c'est comme ça que j'aborde parfois mon travail avec les metteurs en scène. J'aime bien les me donner complètement à eux et devenir presque par moment être avec eux tout le temps, manger comme eux, être avec eux après le tournage aussi, dîner ensemble. Et par moment, je garde quand même un sens critique parce que sinon on devient le metteur en scène lui-même et c'est pas ce dont il a besoin vraiment. Il a besoin de quelqu'un qui peut être critique à ses côtés. Sinon ça fonctionnerait pas aussi bien, je pense. Par exemple, avec Philippe Parrino, ses films, je cadre moi-même, par exemple. Sauf Zidane, qui a un film particulier avec 17 caméras, donc je cadrais pas, je supervisais, mais tous ses autres films après, je suis vraiment possédé par son travail, et il me mène dans cet état-là. Comme avec ce film Marilyn, où même une médium était venue dans le studio et nous avait, comment dire, une séance avec un médium, avec Nicolas Becker, le sound designer extraordinaire de Philippe. Et donc, on avait été vraiment comme ça possédés à nouveau.
On sent aussi celui qui a beaucoup aimé les films fantastiques, les films d'horreur quand il était petit, cette question de possession. Mais il y a une autre notion qui revient chez vous pour cette image qui surgit, c'est celle de Big Bang. Qu'est-ce que c'est que le Big Bang chez vous, Darius Kandji?
Le Big Bang, c'est la première idée, la première notion, la clé, l'idée de la clé de ce qui va créer le film, qui va être à l'origine du film. J'ai toujours associé ça à un Big Bang au début de l'univers, parce que c'est vraiment ce qui commence. Ça peut être des paroles d'un metteur en scène, ça peut être le son de la voix d'un metteur en scène à un moment où il vous dit certaines choses qui vous paraissent à ce moment-là être des choses clés. C'est parfois dans le scénario, c'est la lecture du scénario et quand le réalisateur parle à nouveau d'une chose qui est dans le scénario. Et c'est une idée. Parfois, c'est aussi l'idée, c'est un acteur. C'est la façon dont un personnage de l'histoire. J'ai toujours besoin de rentrer dans le film comme on rentre dans le rêve, par l'intermédiaire de quelque chose, de quelqu'un. La plupart du temps, c'est le metteur en scène, c'est quelque chose qu'il m'a dit. C'est dans le scénario, mais c'est aussi un acteur. Je peux rentrer par un acteur. Joaquin Phoenix, par exemple, je rentre dans The Immigrant par Joaquin Phoenix. Je suis rentré aussi par Marion Cotillard, qui était complètement, elle aussi, possédée par le personnage dans le film.
C'est-à-dire qu'il vous...
C'est un exemple.
Il vous inspire comme un peintre peut être inspiré par un modèle.
Voilà, c'est comme ça, c'est de cet ordre-là. D'un coup, d'être vraiment inspiré par un modèle et pour une sculpture, pour un tableau, c'est un petit peu, j'imagine, comme ça.
Alors la sculpture, c'est aussi un terme qui revient au moins deux fois dans le livre Jordan Mincer, si je me trompe pas, quand les gens parlent de vous. Il y a Bertolucci qui dit que quand il vous a fait venir sur Beauté volée, il vous a demandé de sculpter la lumière, de sculpter les visages des personnages, des comédiens avec la lumière. Et puis il y a aussi Jean-Vincent Puzos qui est un grand chef décorateur, c'est lui qui a fait le décor de l'appartement du Amour de Haneke, et qui dit de vous, Darius Kandji travaille moins comme un chef opérateur que comme un sculpteur, taillant un bloc de marbre noir, et on va y revenir parce que le noir a son importance, cherchant les meilleurs endroits pour faire entrer la lumière. C'est comme ça que vous travaillez?
Je ne sais pas si c'est comme ça, mais c'est un magnifique chef décorateur, Jean-Vincent Puzos. Ça me fait très plaisir qu'il parle de notre travail ensemble de cette façon. Mais je travaille de façon différente. Ça peut être à partir de la fulgurance, de l'éblouissement d'une lumière, et pour construire un film qui se passerait dans le désert, vous voyez, ou être dans l'obscurité à la lumière d'un reflet qui vient du bout du fond d'un tunnel pour le film sur lequel je suis en train de travailler en ce moment pour la partie peut-être en Afrique. Mais c'est comme une étincelle, ça peut être des choses différentes. C'est vraiment l'idée de la lumière que je me fais à partir de quelque chose qu'on m'a raconté, d'une histoire racontée.
La plupart des témoignages des gens que vous avez rencontrés, Jordan Minzer, qui sont à la fois des réalisateurs, des techniciens, il y a Isabelle Huppert aussi, on y reviendra, et voilà qu'arrive N.T. Bean, qui nous rejoint, merci, bonjour, merci bien. Bean. La question de l'obscurité revient beaucoup pour décrire le travail de Darius Kondji. C'est encore Jean-Vincent Puzos qui dira qu'il y a en gros deux types de directeurs de la photo, il y a ceux qui partent du blanc pour aller vers le noir, et ceux qui partent du noir pour aller vers le blanc, et pour lui, Darius Kondji, c'est plutôt quelqu'un qui part du noir et qui peu à peu va rajouter de la lumière et obtenir toutes ces nuances de gris qui sont peut-être le style Darius Kondji, on y revient.
Mais justement, il y a une partie dans le livre, on parle de l'éclairage spécifiquement, et je demande à Darius, mais comment, moi je suis à côté de vous dans une pièce, dans votre maison, comment vous éclairez moi dans cette scène-là? Et donc Darius a commencé par éteindre toute la lumière dans la pièce, fermer le volet, et on était dans l'obscurité, et peu à peu, il a ouvert un peu un volet, il a mis une petite lumière là, et à un moment donné, on avait l'éclairage. Donc, effectivement, comme dit Jean-Vincent Puzos, là, on a commencé par l'obscurité vers la lumière, mais je sais que, Darius, quand vous avez parlé d'autres moments, par exemple, de tourner The Beach, la plage, où il y avait beaucoup de lumière, ou même dans The Lost City of Z, il fallait enlever la lumière dans ces cas pour retourner vers une certaine obscurité. Mais c'est vrai que dans les deux cas, il y a question d'obscurité quand même.
J'aime beaucoup aussi l'idée de commencer par le blanc. J'aimerais bien commencer un film par le blanc. De commencer par une page blanche, un écran blanc, et de gratter et de voir comme du noir, comme une gravure à l'envers, de voir du noir apparaître, du gris, puis plus profondément du noir à certains endroits, et de construire une image comme ça, d'abord un visage et puis ensuite une profondeur. J'aimerais bien construire un film comme ça à partir du blanc total.
Mais cette présence du noir est quand même très frappante dans vos films, notamment parce que le noir a une épaisseur, une texture. Enfin, il y a, on sent que, et c'est sans doute votre amour de la pellicule, vous nous parlerez tout à l'heure de comment c'est effectué pour vous le passage au numérique, mais le noir fourmille, il est habité. Alors là, encore une fois, c'est peut-être l'ancien amateur qui a construit sa cinéphilie sur les films d'épouvante, les films d'horreur, celui qui tournait des films de vampires lui-même quand il était petit. Pour vous, le noir est vivant, quasiment.
Le noir est, bien sûr, le noir est vraiment vivant. D'abord, il n'y a jamais vraiment de noir. Il y a toujours la vie dans le noir. Et j'ai toujours peur du noir. Même maintenant, quand je dois interpréter l'obscurité, le noir, à chaque fois, je me souviens plus comment le faire. Je ne sais pas comment faire le noir. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il faut que je réinvente le noir. Est-ce que le noir vient du plafond, du ciel? Est-ce qu'il vient d'un côté? Est-ce que le noir vient de quelque chose qui est derrière nous? J'ai toujours le noir est c'est un très beau mystère. C'est vraiment je me pose toujours la question de l'interprétation du noir et de ce qu'on voit dans le noir, ce qu'on a l'impression de voir dans le noir. C'est un exercice que je fais souvent pour moi-même, même d'essayer de créer le noir total et puis après de commencer à voir des choses et comment on les voit, comment je les perçois.
Donc le noir, c'est pas l'absence de lumière. Le noir, c'est une matière en lui-même.
Oui, le noir, c'est tout sauf l'absence de lumière, oui.
Alors, N.T. Bean, je profite de votre présence pour citer un collègue à vous de positif, parce que ça, les critiques font aussi de la critique de ce qu'apporte évidemment le directeur de la photographie. Et alors, je cite Christian Viviani, il voit en vous le coloriste privilégié de la mélancolie, voire de l'élégie, à cause de votre prédilection à suggérer que l'ombre est habitée, que la lumière se mérite, isolée dans un coin du plan comme un espoir, ou que le soleil qui vibre n'est qu'un leurre. Votre style, dit-il, comble les cinéastes du non-dit.
Et c'est qui a dit ça?
C'est Christian Viviani pour Positif.
Oh, c'est très beau.
Et qui dit encore de vous, en rapport avec votre travail avec James Gray, hein, donc The Immigrant, vous l'avez dit, The Lost City of Z, j'aime bien comment vous le dites, Jordan Mitzer, le titre original en anglais.
The Lost City of Z.
Ah, c'est beaucoup mieux quand c'est vous qui le dites. Il voit dans votre travail avec James Gray le souvenir d'un art perdu qui fut littéralement celui du non-dit, forcément on n'y parlait pas, le cinéma muet. Et je crois que vous avez une grande passion pour le cinéma muet, Darius Kondji.
Oui, j'ai une très grande passion au cinéma muet. Et depuis vraiment, depuis mon enfance, depuis vraiment le tout début, j'ai regardé, grâce à ma sœur, d'ailleurs, ma sœur Christine, qui m'a vraiment éduqué, qui m'a élevé dans tout ce qui est artistique, et surtout dans le cinéma, et qui m'a emmené voir des films depuis que j'étais vraiment enfant. D'ailleurs, j'ai vu des films un peu trop tôt. J'aurais dû les voir peut-être un peu plus tard, parce qu'ils m'ont marqué, mais ils m'ont vraiment très, très impressionné. Et donc, le cinéma muet, ça a été tout de suite un endroit de, une zone de douceur, une zone où j'étais vraiment dans le plaisir absolu, quoi, comme on était dans un cocon, comme on est dans le ventre de sa mère. Moi, le cinéma muet, c'est vraiment la source. C'est comme quand je dis Giotto, c'est le début de quelque chose. C'est aussi simple. C'est pour moi toujours la notion du début, qu'il y a un début, il y a quelque chose, qui est la fin d'un état qui a été, de notre civilisation peut-être, et puis ensuite commence l'image, commence. Et le cinéma muet, c'est, j'en ai toujours besoin. J'ai toujours besoin de revenir à ces films de cette époque.
Et Ntamin, vous voyez ressurgir cette source dans les films éclairés par Kanji. C'était assez évident pour celui qui vous a vraiment fait connaître, remarquer le trésor des îles chiennes de F.J. Aussand, où on avait une photographie très expressionniste. Enfin, on voyait à peu près d'où elle venait, mais vous la voyez ressurgir cette source, Ntamin?
Je la vois ressurgir, notamment, alors pas forcément là où on l'attend, mais le cinéma muet... D'abord, il est en noir et blanc. Donc, en noir et blanc, l'image, elle est faite par la lumière, pas par les couleurs. Mais deuxièmement, la réussite du film vient de ce que les acteurs expriment grâce à la lumière et non pas grâce à leur texte. Et alors, il y a un paradoxe chez Darius Kondji, c'est que d'une part, il fait de la direction d'acteur avec sa lumière, où il aide le metteur en scène à diriger ses acteurs avec la lumière. Et d'autre part, Darius Kondji m'a raconté que quand il ne cadre pas lui-même le plan, il veut toujours avoir la voix des acteurs avec son casque, parce que l'émotion que la voix dégage l'aide à trouver le rythme de ces images. Alors vous avez le paradoxe, c'est-à-dire j'aime muet, mais je mets aussi le casque pour écouter les acteurs.
Eh bien, Antoine, vous dites des choses, je ne peux pas dire quelque chose après, parce que c'est vraiment parfait, c'est exactement ça. Effectivement, j'ai toujours un casque sur les oreilles pour écouter les acteurs. Depuis vraiment mes débuts, j'ai besoin d'entendre les scènes. Mais je ne suis pas le seul, on est souvent, mais souvent, au début, ça m'est arrivé quand je cadrais. Quand j'avais besoin du casque pour écouter les acteurs, la couleur de la voix des acteurs et le rythme de la scène, dans le casque. Et maintenant, je l'ai toujours. Que je cadre ou que je cadre pas, c'est très important.
Darius Kondji, vous êtes quelqu'un qui travaille à la fois en Europe et aux États-Unis, à Hollywood, enfin avec ces cinéastes indépendants qui nous impressionnent et incarnent Hollywood pour nous, mais qui, dans le cas d'un James Gray par exemple, est plutôt considéré comme un indépendant, n'est-ce pas, Jordan Mitzer?
Oui.
Aux États-Unis, est-ce que il y a une façon très différente de concevoir la photographie d'un côté à l'autre? Je prends l'exemple d'un Woody Allen avec qui vous avez fait 5 films, qui explique que il avait travaillé avec Gordon Willis et qui était ce grand chef opérateur, celui qui avait fait le parrain, et qui estimait que la caméra elle doit pas trop bouger, ou alors c'est vraiment s'il y a un personnage qui bouge dans le plan, qui sort du plan, il faut le suivre, mais qu'il est allé chercher des chefs opérateurs, des directeurs de la photo européens, dont vous, et disant que son cinéma a changé à ce moment-là, parce qu'en Europe, on aime bouger la caméra. Est-ce qu'il y a vraiment des différences de style à ce point entre une tradition hollywoodienne et une tradition européenne?
Je ne sais pas s'il y a vraiment une très grande différence. Pour être passé de film aux États-Unis et de film en France, je ne sais pas s'il y a vraiment une très grande différence de ce côté-là. Moi, par exemple, je n'aime pas bouger la caméra si les acteurs ne bougent pas la plupart du temps.
Vous êtes un héritier de Gordon Willis, alors.
Je ne sais pas si on est héritier de Gordon Willis. J'aime énormément le travail de Gordon Willis, mais c'est plutôt, je me prends plutôt comme Michael Haneke, par exemple, qui bouge sa caméra. C'est-à-dire que mon travail est vraiment en fonction des metteurs en scène. C'est-à-dire que sur le dernier film, par exemple, avec les frères Safdie, eux bougeaient la caméra. Parfois, indépendamment des acteurs. Moi, j'essayais de plutôt la faire bouger en fonction des acteurs. Mais aussi, leur caméra bougeait indépendamment des acteurs. Et ça, c'est très bien. C'est leur vision, hein, c'est leur façon. Et j'aime beaucoup m'adapter à l'univers d'un metteur en scène. Mais pour moi, fondamentalement, c'est vraiment le plan fixe, et le mouvement vient à partir d'un regard aussi, parfois d'un souffle, d'un regard, d'un point de vue où la caméra commence à bouger, et là, l'acteur rentre dans le mouvement de la caméra.
Jordan Mincer?
Mais justement, James Gray, quand il parle de Darius à la fin du livre, il parle du fait que pour lui, par rapport au cameraman américain avec qui il a travaillé, pour lui, il y a une histoire, une tradition, mais une histoire de l'art que Darius apporte sur le film avec la peinture classique, la peinture italienne, française. Et il y a tout ces, on peut dire bagage si on veut, mais toutes ces traditions qui vient, et peut-être ça vient un peu plus de la part d'un chef opérateur européen qu'américain, où au moins James Gray dit qu'ils ont plus de références vers d'autres films ou la photographie, mais pas forcément la peinture. Donc ça, c'est peut-être aussi une différence au moins qui dit James Gray.
Ce qui est passionnant dans ce livre, c'est que vous prenez film par film et il y a des notations d'ailleurs très précises, y compris pour des élèves en photographie, hein, les objectifs utilisés, les lumières, l'exposition, tout ce travail extrêmement, extrêmement technique. Mais vous faites aussi référence pour chaque film quasiment à certains peintres. Alors pour Lost City of Z, ça va être le douanier Rousseau, par exemple. Pour Zidane, on apprend que la veille du tournage, avec tous les cadreurs, vous avez fait une visite privée du Prado. En disant, voilà, avec Parreno, voilà les cadres qui m'intéressent. Ces peintures-là de référence reviennent à ce fameux moment du Big Bang dont parlait tout à l'heure. Comment vous faites le raccord entre un scénario que vous avez, une discussion que vous avez avec un cinéaste, et puis des peintures qui vont être un peu les points de départ? Il ne va pas s'agir de les copier, évidemment, mais...
Je ne cherche pas vraiment une inspiration dans la peinture ou dans la photographie. Elle vient... Elle vient dans le moment, dans le vécu, du moment où l'on a rencontré un metteur en scène, de la lecture du scénario, et dans ce moment dans ce voyage, dans cette partie du moment du voyage, il y a des choses qu'on vit et on commence à repenser à l'histoire qu'on a lue et à ce que nous a raconté le metteur en scène, et petit à petit, on a par curiosité envie de regarder un tableau en particulier, une photographie. C'est pas quelque chose, on se dit pas, ah tiens, je vais avoir une inspiration. Et d'ailleurs, je n'aime pas les inspirations directes de la peinture. On en a mis dans le livre parce qu'on peut pas éviter. Parfois, c'est vrai qu'on a été inspiré, le metteur en scène et moi, par certains tableaux à certaines époques, comme à l'époque de Délicatessen, de La Cité des Enfants Perdus, c'était George Bellows, ou Winslow Homer, ou les réalistes américains, mais j'aime pas penser au lien direct de la peinture et du cinéma. Je crois que c'est vraiment deux états différents.
Entebin?
Oui, moi, il y a une chose qui m'intéresse toujours dans les entretiens que Darius Kondji fait. C'est, il parle presque autant de la musique que de la peinture. Ouais, comment est-ce que la musique s'introduit dans votre travail, en fait?
La musique, c'est très bien de dire ça. La musique s'est introduite dans mon travail petit à petit. Je pense pas qu'elle était là au début de mes premiers films comme cinematographer. Elle est venue doucement au fur et à mesure.
Pas consciemment.
Elle est venue pas consciemment. J'ai l'impression que mon oreille est devenue de plus en plus musicale. Je me suis de plus en plus intéressé à la musique. J'ai toujours écouté de la musique. Classique et de l'opéra très tôt, encore une fois grâce à ma sœur et à un de mes frères James qui est très mélomane, qui écoute beaucoup de musique classique, et donc ils m'ont fait écouter de la musique quand j'étais enfant, et j'ai aimé l'opéra très tôt. Et en fait, il y a un moment indicible où j'ai commencé à rechercher dans les films les moments d'opéra pour les retrouver, pour retrouver les disques et écouter la musique. Je me souviens d'avoir vu très tôt Prima della Rivoluzione, et je voulais trouver les moments d'opéra ou dans des films de Carmelo Bene. Il y a toujours des moments d'opéra incroyables, et je cherchais dans les films de Carmelo Bene, je voulais retrouver les opéras, et parfois c'était Monteverdi, parfois c'était Verdi, puis après ça a été Puccini, et puis après j'étais vraiment pris de passion pour Puccini, qui a été un point commun très fort avec James Gray. Mais la musique est venue comme ça, très fort, petit à petit. En fait, je vous dis qu'elle n'est pas venue depuis le début, elle était là, en fait, depuis le début, mais elle s'est révélée au niveau des scènes où je l'ai mis, j'ai mis le rythme, j'ai parlé du rythme des scènes, du rythme de la caméra, du mouvement de la caméra, en fonction du mouvement du déplacement des acteurs dans l'espace, et de la... de dialogue, de la façon de, et tout ça est devenu comme une, comme un, comme une, comme une pièce musicale, en fait. Et cette pièce musicale est très accordée avec celle du réalisateur. J'ai très, c'est très important. Et en général, si on écoute, fait très attention à la scène, à ce qui se passe dans ce que les acteurs disent, dans le débit des phrases, tout tient, tout va ensemble, je trouve. Et on est beaucoup plus en accord avec le réalisateur, avec le metteur en scène avec qui on travaille. On commence à comprendre beaucoup plus où il va pour pouvoir l'aider encore plus avec la caméra, les grosseurs de plan et le déplacement de la caméra.
Il y a un côté organique. C'est-à-dire, vous séparez pas le décor, le son.
Très organique, oui. Très organique. Et aussi de l'atmosphère lumineuse de l'espace. Tout ça, il doit avoir une cohérence. Et quand on atteint cette cohérence, il y a une espèce d'état de grâce incroyable qui se passe. Et c'est ces moments-là que je crois qu'on voit dans le cinéma. C'est très rare. Mais...
Now, without further ado, I give you the great Caruso!
Ce qui est très étonnant, c'est que tout ce que vous dites nous semble très instinctif, c'est-à-dire que, comme le dit Bean, il y a quelque chose de très organique. Or, c'est un métier très technique, celui de directeur de la photographie. Il faut maîtriser les objectifs, la sensibilité d'une pellicule, tout un travail d'étalonnage derrière, quel projecteur utiliser, etc. Est-ce que vous arrivez à théoriser à un moment ce que vous venez de nous dire, mais comment l'appliquer techniquement parlant, ou ça se fait encore de manière presque instinctive, c'est-à-dire que vous réfléchissez plus
J'aime pas dire instinctif parce que j'ai pas toujours l'instinct juste pour les choses. Je pense pas d'avoir toujours l'instinct juste, mais j'aurais envie de dire instinctif, mais je pense que en faisant la photographie moi-même des films, je me suis intéressé particulièrement aux objectifs et à la pellicule, à la chimie de la pellicule, à l'époque où la pellicule était reine, où il n'y avait que le film, que la pellicule. Donc, je me suis intéressé au développement, au temps de développement, au rendu du temps de développement et de la chaleur, de la température de développement. Et de l'argent qu'on laissait sur le film et tout ça, j'ai commencé à faire des mixtures et des choses pour les films que je traitais. Alors après, bon, bien sûr, on pense que c'est de la technique. Je suis un technicien, je suis pas vraiment un technicien au départ. J'étais quelqu'un qui était la technique m'ennuyait beaucoup au départ et je me passionne pour les gens qui sont des techniciens parce que je peux pas me lasser de les écouter parler de la technique. C'est comme une poésie pour moi. Mais je n'ai pas ce talent de la technique, donc j'ai créé moi-même petit à petit des choses techniques comme ça pour les films, pour interpréter les films.
Alors qu'est-ce que le passage au numérique a changé? C'est un peu le fil qui court aussi dans ce livre d'entretien, Jordan Mincer. Alors le numérique, c'est arrivé assez tard dans votre travail. Vous avez fait un choix à un moment de faire Amour, je crois que c'était votre premier film entièrement numérique. Et là, c'est quelque chose que vous suggérez très fortement à Michael Haneke, assez réticent au départ. Trop, oui. Mais vous n'êtes pas un fou du numérique. Enfin, il faut vous méfier un peu. On sent de cette évolution technique.
Oui, j'ai toujours une réticence avec le numérique. J'ai toujours été un peu timide avec le numérique, qui est un merveilleux animal, le numérique. C'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir faire des images en numérique. Et maintenant, j'ai un plaisir à photographier les ambiances et à raconter des histoires avec l'image numérique. Mais c'est une créature, ça peut être une créature abominable aussi. Il faut vraiment, vraiment la dompter. C'est difficile, la dompter. On la dompte film par film de façon différente. Mais j'aime beaucoup, beaucoup tourner en film. J'aime toujours tourner en film. Et il faut surtout dissocier les deux. Il faut pas, je crois que ce qui est très important quand on tourne un film, qu'on photographie un film en numérique, c'est qu'il faut oublier le film. Faut pas essayer de faire de la reconstitution historique avec la pellicule. La pellicule existe, elle est là. Et si on veut tourner en film, c'est très facile. Il n'y a rien de plus facile que de faire un film en film, d'exposer la pellicule et de tourner en film. Beaucoup plus simple, presque, que le numérique.
Mais à l'inverse, vous vous méfiez quand même toujours du numérique sur le danger de la facilité. C'est-à-dire, il faut pas se dire, bon, c'est pas grave, si on rate ça au moment du tournage, on va le corriger après. Pour vous, c'est au tournage que ça se passe. Vous le dites même, c'est un manifeste. Enfin, les images qu'on tourne au moment du tournage, c'est presque politique. C'est là que ça se passe.
Oui, c'est pour moi, c'est vraiment comme un acte politique. J'aime beaucoup aussi la politique. C'est vraiment comme un acte politique d'exposer une image et de comment, pourquoi on photographie une image, même numérique, sur le numérique d'une certaine façon. Par exemple, je suis contre en numérique. Souvent, on vous dit, il faut faire tout très plat, faire un signal très plat, c'est-à-dire faire une image le plus ouverte possible, le plus exposée possible au niveau que le capteur prenne toute la lumière, même dans les ombres, c'est-à-dire ouvrir les ombres, c'est-à-dire le contraire du noir, pour pouvoir après tout maîtriser et tout reconstituer après au laboratoire, en post-production, avoir tous les signaux ouverts. Et moi, je suis absolument contre ça. Je pense qu'il faut se donner à une image et l'interpréter comme on veut, avec un petit peu de sécurité parfois sur le négatif numérique, comme on le ferait sur le négatif film, mais il faut s'engager de toute manière. Dans un film, il faut s'engager.
Et c'est une responsabilité aussi envers l'acteur, envers celui ou celle que vous filmez. Alors celle, en l'occurrence, vous avez rencontré Jordan Minzer, Isabelle Huppert, qui parle toujours remarquablement de son travail, mais aussi de la lumière, parce qu'elle est très consciente de la manière dont la filme. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté?
Mais en fait, j'ai choisi Isabelle Huppert parce que elle a travaillé avec Darius sur Amour, mais aussi parce que elle a fait beaucoup de films avec beaucoup de grands chefs opérateurs, et je voulais justement savoir un peu. Connaître son expérience avec d'autres chefs opérateurs aussi, et ça, comme pas mal d'acteurs dont Darius parle dans le livre, elle est très très consciente de la lumière, la façon d'être éclairée, presque comme les stars américaines du cinéma des années 30, comme Greta Garbo, qui avait son
propre chef opérateur,
ouais. William Daniels, et cette idée que la lumière, ça fait vraiment partie de jeu d'actrice. Donc Isabelle Huppert, par rapport aux acteurs, je pense que, par exemple, en parlant avec des acteurs américains d'autrefois, ils étaient un peu moins conscients de la lumière que du cadre. Mais j'ai l'impression qu'ils avaient perdu. La lumière comptait aussi, c'était aussi important que le cadre pour elle.
Ce qu'elle dit, et ce qui est sans doute une des difficultés ou un des plaisirs de votre métier, Darius Kondji, ce que dit Isabelle Huppert, c'est ce qui est difficile, c'est de trouver l'équilibre entre l'éclairage général d'une scène et l'éclairage d'un visage en particulier. Ça, c'est une contrainte que vous avez toujours à l'esprit?
C'est un point très juste. C'est toujours une chose que je me dis quand j'aborde les scènes, les films. Et certaines scènes dans les films, c'est dans l'ambiance générale d'une scène, d'une séquence et d'un décor. Comment, quand la caméra va se rapprocher de l'acteur, comment on va traiter le visage de l'acteur? Parce qu'il faut d'abord qu'il soit juste. Il faut que la lumière soit juste, qu'elle soit vraie. Mais en même temps, quand on se rapproche du visage d'un acteur, on a tout un autre monde qui se dégage, qui est le monde, le paysage même de la beauté quand je dis beauté, de la profondeur de l'acteur. Et à ce moment-là, il faut parfois altérer l'image. Il faut légèrement l'altérer ou la modifier légèrement, ou lui donner donner plus de justesse à son âme, à l'âme de cette du gros plan d'un acteur. Il faut parfois changer un petit peu la lumière, c'est ce que je pense, moi, en tout cas. C'est pas la laisser telle qu'elle, c'est un peu de la paresse, et aussi d'une mauvaise interprétation des choses, de penser qu'il faut les laisser la lumière telle qu'elle, quand on se rapproche. Parfois, il y a une très belle et une très grande grâce, la lumière, sur le visage d'un acteur. Mais parfois, elle est vraiment pas juste, alors qu'elle était très, très juste dans un plan large. Elle n'est plus sur un plan très serré d'un acteur. Et à ce moment-là, il faut l'altérer. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Vous, je crois que vous répondez très, très, très clairement, mais ce qui court aussi un peu dans ce livre, c'est votre intérêt pour l'art contemporain, pour l'art conceptuel. Vous dites même que votre plaisir d'avoir fait Funny Games US avec Michael Haneke, ouais, c'était ce geste de reproduire plan par plan un film qui existait déjà. Et est-ce qu'il y a chez vous parfois l'envie de faire une image qui ne serait pas directement narrative, qui ne serait pas forcément au service d'un récit, comme le travail que vous faites avec Philippe Parreno, précisément, même si dans un film comme Zidane, il y a énormément de récits et de fictions qu'on s'invente ou qu'on voit directement. Mais est-ce que voilà, c'est une direction qui vous intéresse ?
C'est une direction qui m'intéresse beaucoup de travailler dans le non-narratif avec les metteurs en scène. Et certains des metteurs en scène les plus intéressants avec qui j'ai travaillé ont des moments de leur... Dans un certain moment du travail avec eux, nous sommes arrivés à des stades qui n'étaient pas de la narration directe, qui n'étaient pas directement du traitement du récit, comme on pourrait le dire, de façon narrative directe, mais qui étaient de l'ordre du subliminal, ou qui racontaient l'histoire sur une autre longueur d'onde qui était plus abstraite et qui me passionne beaucoup.
Par exemple,
ça m'est arrivé avec les frères Safdie récemment.
Avec qui vous êtes en train de tourner.
Avec Uncut Gems, avec les frères Safdie à New York. Il m'est arrivé d'avoir des discussions avec Josh ou Benny où tout d'un coup on parlait d'une séquence où moi, tout d'un coup, je me retrouvais d'avoir pensé à la séquence d'une façon plus conservateur, je dirais, entre guillemets. Lui, il me racontait la séquence de toute façon complètement beaucoup plus abstraite, beaucoup plus intéressante que je l'avais imaginé moi-même.
C'est-à-dire qu'on apprend toujours.
Un choc un peu. J'adore avoir des chocs avec. J'adore que les metteurs en scène me choquent. J'aime beaucoup être choqué en fait.
Vous apprenez toujours en fait. C'est ça qui est
très bon. Tout le temps. On apprend tout le temps, mais continuellement.
Mais parfois, c'est vous qui choquez le metteur en scène ou qui le brutalisez un peu ou l'emmène dans une autre direction que celle qu'il avait pensée au départ. Notamment ce que dit Jean-Pierre Jeunet sur Delicatessen. Il y a un moment, Darius Kondji a eu des idées radicales sur les couleurs, qui ont étonné tout le monde. Et puis après, les metteurs en scène ont foncé.
Il dit aussi, Jean-Pierre Jeunet, que vous êtes très dangereux parce que vous êtes très grand et qu'il vaut mieux pas se mettre sur une nacelle à côté de vous parce qu'on risque de tomber.
Ça, c'est vrai, oui. Non, j'ai toujours l'impression que c'est les metteurs en scène qui me choquent et moi, j'ai pas l'impression d'être très choquant, d'être toujours le plus conservateur de la bande. Mais non, c'est très gentil de dire ça sur mon travail avec Jean-Pierre. Mais Jean-Pierre, avec Caro et Jean-Pierre, c'était eux qui étaient surtout les artistes qui créaient cet univers incroyable de leur film. Caro a un univers incroyable qu'il insufflait au film aussi.
Mais sur les choix des couleurs, vous les poussiez peut-être vers quelque chose vers lequel ils n'osaient pas aller et que vous avez finalement décelé chez eux.
Vous avez créé quelque chose qui a fait un tabac absolu à Hollywood, si on en croit ce livre, c'est ce fameux Or français qui est devenu une référence. Vous avez créé l'Or français.
Yvan qui dit ça. Oui, c'est Yvan Lucas qui dit ça, mon étalonneur extraordinaire de toute cette période de film. Ouais. J'ai eu la chance de travailler avec de tels grands metteurs en scène, tellement intéressants, dans tellement de directions différentes que je suis vraiment très gâté, quoi. Donc je suis moi-même choqué par leurs idées artistiques. Et...
Alors, idées artistiques radicales, par exemple, sur un film que j'adore et que j'ai eu la chance, comme quelques festivaliers, de voir sur un très très grand écran, c'est le film de Bong Joon-ho, Okja. Film financé par Netflix et que donc la plupart des gens auront vu sur un écran plus ou moins petit, au mieux un grand écran ou un projecteur dans son salon et pour beaucoup juste l'écran d'un smartphone. Et vous commencez ce film avec un plan extrêmement large où dans la nature, alors on le voit dans le grand amphithéâtre lumière, on les voyait très bien, vos personnages, mais je ne sais pas comment on les voit sur un petit écran. On voit deux personnages, une petite fille et un être fantasmagorique, le fameux Okja, le cochon hippopotame du film. Ils sont tout petits comme ça dans la nature. Est-ce que quand vous faites un film comme ça, dont vous savez qu'il va finir de manière assez réduite, vous avez conscience de ce qu'il peut y avoir de provoquant de faire ce plan-là?
Mais vous avez déjà vu des miniatures personnes, non?
Oui.
Les miniatures personnes, c'est ça. Il faut se rapprocher de plus en plus, comme ça. Et on voit qu'en se rapprochant, qu'on voit la beauté se dessiner dans l'infiniment petit. Et c'est un peu comme ça que j'ai abordé mon travail avec Bong. C'est un extraordinaire, merveilleux metteur en scène. C'est vraiment un des plus grands avec qui j'ai travaillé. Et c'était une découverte merveilleuse de travailler avec lui. Mais c'était dans l'infiniment petit. Je me suis imaginé, bon, alors on va faire c'est comme quand j'ai fait cette série récemment avec Nicolas Winding Refn, et qui a un humour extraordinaire aussi. On se disait, bon, on va faire des images.
Too Old to Die Young.
Too Old to Die Young, qui va sortir l'année prochaine. On faisait des films pour des iPhones. On se disait, bon, on va faire un film pour un iPhone, par exemple. L'image va être pour un iPhone. Mais l'image doit être encore plus ciselée. Et donc, au lieu de prendre une petite caméra ou une petite caméra numérique, j'ai dit, bon, mais puisque Netflix veut tourner, en 4K, nous allons aller au-delà du 4K. Et comme le metteur en scène, comme Bong était vraiment un petit peu inquiet à l'idée de tourner en numérique, parce qu'il n'avait jamais tourné en numérique, je lui ai dit, écoutez, le numérique peut être aussi extraordinaire. On va faire des essais. On a fait des essais avec cette caméra Alexa 65, avec un immense capteur, qui est le plus grand capteur de cinéma aujourd'hui, pour faire des films, qui a un capteur de Vista Vision, qui est gigantesque. Et donc, on a fait le film avec ce capteur. Et tout d'un coup, l'image est devenue incroyablement précise, ciselée, comme une miniature personne dans le paysage. C'est comme ça que je l'ai vu. Et je crois que c'était très beau. Ceux qui le voyaient en grand écran, le voyaient en grand écran. Et les autres le voyaient dans un écran plus petit.
Alors vous qui aimez le visage de l'acteur, vous qui aimez entendre la voix du comédien, comment vous faites pour filmer une créature qui n'existe pas? Qui est celle dans Okja, qui est donc ce monstre très attachant, mais qui n'existera qu'en post-production.
Eh bien, j'écoute le metteur en scène, encore une fois. Le metteur en scène, Bong, parlait de Okja comme une personne qui existait, qui était à côté de nous. Alors je me retournais autour de moi, je dis, mais où est Okja? Et pendant toute la préparation de la genèse du film, dans la campagne coréenne, dans la montagne, il me parlait en souriant, parfois en coréen, parfois en anglais, avec son anglais qui grandissait, qui devenait de meilleur en meilleur. Et il me parlait d'Okja. Et ensuite, tous ces jeunes assistants autour de lui, toute cette équipe coréenne, tous avec les yeux illuminés, me parlaient de Okja. Et alors, je regardais derrière les arbres, je regardais au fond de la colline, je m'attendais à voir Okja dévaler la colline. Et petit à petit, je disais, mais je suis le seul idiot qui n'a pas vu Okja. Et je me disais, mais comment je vais voir Okja? Et petit à petit, j'ai commencé à voir Okja comme une créature qui s'est dessinée, comme un monstre de Miyazaki qui s'est dessiné autour de moi, et on a commencé à parler d'Okja. J'ai commencé à parler d'Okja avec eux, en disant, ah, elle est comme ça, elle est vraiment drôle là, ah, elle secoue, elle va nous envoyer tous balader dans le décor, dans le ravin, si on fait pas attention à où elle marche. Et tout, on a commencé à comprendre sa forme, son empattement, sa forme, sa longueur, et on a commencé à la créer, Okja, avec des morceaux de tissu, avec un câble, et voilà. Et Okja est né petit à petit grâce à ses amis coréens, qui avaient tout compris.
Merci Darius Kondji, on attend impatiemment le résultat de votre collaboration avec les frères Safdie, Uncut Gems. En attendant, conversation avec Darius Kondji, mais aussi tant d'autres qui ont travaillé avec vous, comme Jean-Pierre Jeunet, Woody Allen, James Gray ou encore Isabelle Huppert, qu'a rencontré Jordan Minzer, c'est édité par Cinecdoc. Merci à vous Jordan Minzer d'avoir également été présent aux côtés de Darius Kondji. Vos conversations avec James Gray sont toujours disponibles chez le même éditeur. auteurs. Et puis, pour en savoir plus sur les auteurs de Délicatessen et La Cité des Enfants Perdus, tous deux éclairés, on l'aura compris, par l'invité de Plan Large aujourd'hui sur France Culture, Tous les cinémas de Caro et Jeunet, le beau livre de Laurent Djian, c'est aux éditions Cernunnos. Ntebin, je profite de votre présence pour signaler encore un ouvrage, celui que vous avez coordonné avec Frédéric Socher et consacré aux scénaristes et cinéastes au travail, Écrire un film, c'est aux impressions nouvelles. Mais ce n'est pas d'écriture que vous allez nous parler à présent, Ntebin, mais bien d'une découverte et pas des moindres, Jean Gabin et Madeleine Renaud, comme vous ne les aviez jamais vus ni entendus.
Elle te plaît, la vie combaine?
Ah oui. Ah, c'est autre chose que de rester enfermé là toute la journée dans un café.
Ah, tu trouves, hein?
Pourquoi est-ce que vous me demandez ça?
Ah oui, pourquoi?
Hein? Vous aviez bien une idée en me demandant ça.
Bah, c'est-à-dire que...
Bah, j'écoute.
Voilà, puisqu'elle te plaît tellement, cette vie-là, tu voudrais pas la vivre toujours?
Je comprends pas.
Enfin, tu crois qu'on ferait pas une belle petite vie de famille, là, tous les quatre?
Pour ça, il faudrait que j'en sois, hein, de la famille.
Ben, c'est ce que je veux dire.
Comme vous y allez.
Cette idée-là te déplaît tellement?
Et quelle idée?
Ben, de... m'épouser, quoi.
Tombouctou, mon vieux, qu'est-ce que tu répondrais, hein, à ma place?
Ah, il a dit oui.
Alors, vous devez le remercier.
Oh, si tu savais ce que je suis content... Que je suis heureux parce que tu comprends, t'es exactement la femme qu'il me faut, alors... Sylvestre, il m'a dit de pas faire de bêtises, dis donc.
Oh, ben dites donc, si c'est une bêtise, faut pas la faire, hein?
Non, c'est pas ça que j'ai voulu dire, seulement je suis tellement... tellement content, je te dis, tu peux pas savoir.
C'est le rêve de tout historien de cinéma, découvrir comme ça, par hasard, un film mythique qu'on croyait perdu. C'est ce qui est arrivé à un certain Charles Zygman, un spécialiste américain de Jean Gabin, qui lui a consacré un livre d'ailleurs, qu'on espère lire en France, parce que j'aime beaucoup son titre. Le titre du livre, c'est Gabin, The World's Coolest Movie Star. Gabin, la star de cinéma la plus cool du monde. Dans les archives de l'université UCLA, en Californie, cet homme trouve un jour, donc pendant ses recherches sur Jean Gabin, une boîte censée contenir un film de vampire. Quand il l'ouvre, il y a 5 des 9 bobines d'un film français qui avait été réalisé pour la Paramount par Harry Lachman en 1932. C'est La Belle Marinière, qui était donc réputée disparue, et ce depuis la fin des années 30, autant dire qu'aucun contemporain ne l'a vu. On savait que c'était un des premiers grands rôles de Jean Gabin, on savait que Madeleine Renaud et Pierre Blanchard lui donnaient la réplique, on savait que ça se passait sur une péniche, 2 ans avant La Talente, on savait aussi que Marcel Achard, votre cher Marcel Achard, Ntebin, en était le scénariste d'après une pièce qu'il avait créée en 1930 à la Comédie Française, avec d'ailleurs déjà Madeleine Renaud dans le rôle. Et puis, c'est tout. Et puis, tout d'un coup, on découvre ce film. Alors, quel film découvre-t-on, Ntebin, puisqu'il est maintenant disponible pour toutes et tous? Il a été restauré par Lobster Film, qui l'édite en DVD.
Alors, évidemment, c'est un objet très étrange, parce que c'est un film incomplet, et les parties manquantes, c'est-à-dire presque un tiers du film, plus d'un tiers du film, sont remplacés par des photographies avec un texte qui raconte ce qui s'est passé. Et donc, y a ce côté où il faut aussi exercer son imagination pour reconstituer le film, un peu comme Okja, qui n'existait pas. Et c'est très intéressant parce que c'est les débuts du cinéma parlant en France. Et donc, on teste non seulement des techniques, mais aussi des techniques d'acteurs. Il y a des acteurs qui étaient déjà connus au temps du muet, il y en a qu'on va prendre au théâtre, etc. Et puis, de temps en temps, il y a une nature qui se révèle comme ça à l'écran. Et c'est intéressant parce que Jean Gabin, il est entouré de très bons acteurs. Il y a, comme vous l'avez dit, Madeleine Renaud, il y a Pierre Blanchard qui finalement... peut-être aussi en raison des bobines perdues, joue un plus grand rôle dans cette version-là reconstituée. Et ce qui est très frappant, c'est que dès qu'il y a Gabin à l'écran, on est dans un naturel incroyable. Et quand il y a Madeleine Renaud ou Pierre Blanchard, on est dans une... à la fois avec une sorte de soin à vouloir bien faire, parce que les caméras peuvent pas bien bouger, donc il y a une sorte de plan tour de force où ils dansent ensemble et la caméra les suit dans un très long travelling aller et retour, mais et on sent le tour de force en fait, on sent la démonstration visuelle, technique. On sent aussi qu'il a voulu mélanger des plans en studio et des plans en extérieur naturel. Il y a des très beaux plans de Paris sur les canaux, sur les berges de la Seine. C'est
une scène de mariage en face de Notre-Dame qui est quelque chose en plus.
Marcel Achard qui très souvent écrivait pour des trios amoureux et la femme ne finit quasiment jamais avec celui qu'on attendait, donc c'est aussi quelque chose d'assez intéressant, donc on révèle pas la fin et tout ça en fait dès que Gabin est à l'écran face à vous et qui se met à parler, on oublie la technique, le côté rudimentaire, le théâtre. On est dans quelque chose de proprement magique, cinématographique, et on comprend que Gabin est percé à ce moment-là parce qu'il incarnait une voix nouvelle, spécifiquement cinématographique, qui vient pas du théâtre, qui vient du music hall en fait. Donc qui a un côté aussi, il y a une aisance dans le mouvement, ne serait-ce que pour ça, pour ce couple qui va reformer avec Madeleine Renaud bien plus tard dans Remorque, mais c'est déjà là grâce à la présence de Gabin. Et par ailleurs, c'est un film qui est tout à fait intéressant sur justement à la fois la dramaturgie, comment on adapte une pièce, et l'utilisation, comme je vous disais, des extérieurs naturels qui raccordent avec des très beaux plans en studio, notamment des plans de miroir ou des plans à travers des fenêtres, etc. Donc une vraie redécouverte.
La restauration est sans doute pour beaucoup parce qu'on a une image qui est impeccable, un son qui est excellent. On a du mal à croire que c'est de 1932 tellement on entend quand même bien ce qui se dit. Il y a un moment qui évoque presque le pré-code aux États-Unis où on a Madeleine Renaud, parce que au début du film, dans la bobine manquante, elle est tombée à l'eau, elle a été sauvée par Gabin. Donc on la voit se séchant. On va lui mettre une robe et il y a ce plan de trois quarts d'eau d'une Madeleine Renaud nue qui est un plan assez étonnant au cinéma d'époque. Et qu'est-ce qu'on sait sur Harry Lachman, le réalisateur de ce film? C'est pas un réalisateur très connu, mais c'était un Américain francophile.
Oui, il a fait des films pour la Paramount aux États-Unis. Et puis, c'était la période où les studios américains voulaient s'implanter en Europe. Et donc, ont ouvert, notamment en France, des filiales pour tourner non seulement des versions française des films américains, mais aussi pour tourner des films français. Et c'est comme ça qu'on retrouve quelqu'un qui vient d'Hollywood. Et notamment parce que Harry Lachman était bilingue. Donc, on le retrouve des deux côtés de l'Atlantique, faisant des versions françaises ou des films français, dirigeant de la même manière que, je sais pas moi, Alexander Korda a dirigé l'un des films de la trilogie Pagnol. Voilà, c'était cette période où on essaye de faire en sorte que le cinéma ne soit pas trop statique, pas trop théâtral, où on essaie de mettre un peu de style visuel aussi dans le cinéma et on expérimente. Donc il y a cette fraîcheur-là. Vous disiez, on dirait pas que c'est un film de 1930, mais en fait, ce qu'on oublie trop aujourd'hui, c'est que à la fin des années 20, au début des années 30, on était arrivé à une qualité d'image absolument extraordinaire, et sauf qu'on n'a plus souvent le matériel pour pouvoir tirer du négatif original cette image fabuleuse. Et là, on en a un petit aperçu grâce à cette restauration.
Et malheureusement, dans les quatre bobines perdues, hein, sur les neuf, il y en a une où Gabin chante. Mais heureusement, il a quand même enregistré la chanson.
Nous avons la barbe rousse, le teint hâlé, les yeux clairs. Nous, les matelots d'eau douce, nous, les marins sans la mer. God morning et tralalair, farewell et tralala. Les marins ont le beau rôle, mais ne soyons pas amers. Notre vie est bien plus drôle, ah, s'ils n'avaient pas la mer.
Merci, Ntebin, la belle marinière d'Harry Lachman. C'est édité en DVD par Lobster Film, en espérant un jour peut-être qu'on retrouve les quatre bobines encore perdues de ce film. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Emmanuel Morse d'Incan et Benjamin Vignal. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, plan large sur un homme cinéma, comme l'appelait François Truffaut, le père spirituel de tout un pan de la critique française et internationale, père spirituel aussi de la nouvelle vague
vagues et du cinéma moderne et dont on célèbre cette année le centenaire, André Bazin, à l'occasion de la parution événement de ses écrits complets aux éditions Macula. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.
Les mêmes étoiles, mais les nôtres sont moins loin. Good morning et tralala, farewell et tralala. Nous avons femmes et filles que nous ne quitterons plus. Mais sans aller aux Antilles, non, sommes pas moins cotus. Good morning et tralala, farewell et tralala. Good morning et tralala, farewell et tralala.